Vivre, c'est épatant.
Depuis les Champs-Élysées,
sur Vivre FM.
Comment réussir dans une entreprise lorsqu'on est une femme aussi bien qu'un homme? Notre invitée y est parvenue. Sarah Zitouni a fait des études d'ingénierie mécanique. Elle est devenue stratège en système de propulsion et ingénieure motoriste dans un grand groupe automobile en Suède. Elle sort Tout vouloir, tout avoir, Assume la bosse qui est en toi aux éditions Kiwi. Elle est notre invitée jusqu'à 14h sur Vivre FM.
Vous écoutez Vivre c'est épatant
avec Carole Clémence.
Sarah Zitouni s'est installée autour de la table du studio de Vivre FM. Bonjour Sarah.
Bonjour Carole.
Alors vous êtes venue spécialement de Suède pour la promotion de votre livre Tout vouloir, tout avoir, Assume la bosse qui est en toi aux éditions Kiwi. Vous travaillez, vous vivez en Suède?
Oui, absolument. Je travaille et je vis en Suède depuis 8 ans déjà.
Oui. Alors vous parlez suédois j'imagine?
Oui, jag pratar svenska.
Ah, c'est bien. C'est pas tout en anglais là-bas.
Si, absolument. On peut tout à fait vivre en Suède, en immigré, en ne parlant que l'anglais. Mais moi, comme je me suis installée durablement, en tout cas, j'ai décidé d'apprendre la langue par courtoisie pour mon pays d'accueil.
Oui. Alors, votre pays, c'est la France. Vous êtes né, vous avez fait vos études à Villeurbanne. Vous êtes né là-bas, je crois. Et donc, vous êtes là de là-bas et vous avez décidé de faire des études d'ingénierie mécanique dans un domaine très masculin.
C'est ça. Donc, en fait, oui, moi, je suis française de naissance. Bon, mes parents sont immigrés eux-mêmes. On a un peu l'immigration dans le sang. Puis, j'ai émigré en Suède plus tard. Mais j'ai fait mes études en France à l'INSA Lyon et j'ai fait des études en méca. Et c'était vraiment ma passion. C'était vraiment mon choix de vie. C'était important pour moi de me diriger vers ce métier, malgré le fait, évidemment, oui, que c'est un métier qui est très largement masculin.
Et alors justement, j'imagine qu'on vous dévalorisait étant une femme dans ce milieu d'hommes ingénieurs, non? Il n'y avait pas des choses, des remarques, « Oh, tu ne vas pas y arriver, tu es une fille, tu veux qu'on t'aide, c'est plus facile pour nous », des choses comme ça?
Alors oui, il y a toujours eu, à tout moment, il y a eu des gens qui étaient donc plus ou moins frontalement contre cette idée. C'est ce qui est très particulier là-dedans, parce que moi, ça m'a toujours semblé être une évidence et une vocation, mais ça a semblé moins une évidence pour d'autres personnes. À titre d'exemple, moi j'ai eu un professeur de sciences de l'ingénieur au lycée qui était atterré quand il a découvert que je n'avais fait que des vœux pour des écoles d'ingénieurs et des prépas sortis du lycée. Moi ça m'a atterré dans l'autre sens, parce que je me suis dit mais il a pensé que je suis rentrée ici parce qu'il y avait de la lumière, des cookies et du lait. Mais en fait non, concrètement il a vraiment pensé que voilà, c'était pas grave d'en faire au lycée, hein, c'est rigolo, c'est sympa, mais qu'ensuite on allait quand même rentrer dans les rangs. Et concrètement, il m'a pris à part pour me dire qu'en fait, c'était pas un métier qui serait possible de combiner avec une maternité et que j'allais être soit une mère terrible, soit une employée terrible.
Oh là là.
J'avais 16 ans, voilà.
Oh
et
là.
Ensuite, il s'est jalonné dans mon parcours un paquet d'autres interventions plus ou moins intempestives de cette nature.
Oui, oui, on vous a pas dit être ingénieur c'est très difficile pour une femme, tu vas te retrouver face aux hommes qui vont pas te faire de cadeaux parce que t'es une femme.
Alors,
choisis une autre option.
Il y a eu ça, il y a eu tout à fait ça, il y a eu toute la question de la maternité à base de être ingénieur, c'est un sacerdoce en fait, il faut passer sa vie au travail, il faut absolument travailler jusqu'à en mourir, donc du coup on ne peut pas avoir d'enfant. Alors apparemment ça pose problème aux femmes mais pas aux pères, donc je sais pas, aberration peut-être. J'ai eu toutes les questions à base de un peu plus innocentes, mais qui sont aussi très répétées, c'est-à-dire à peu près à tous les endroits où je vais et où on découvre mon métier pour la première fois, dans un milieu professionnel, je parle pas privé, on me dit toujours « Tiens, c'est pas commun, comment tu en es arrivé là ?» Ce qui est toujours un peu particulier de commencer par exemple des discussions commerciales d'importance par cette question-là.
Ah oui, oui, oui. Oui, parce que vous êtes aussi stratège, donc vous gérez vous gérez plus que l'aspect études mécaniques.
Oui, alors en fait, moi j'ai commencé justement comme motoriste, donc à dessiner et à calculer des vilebrequins pour être sûr qu'ils tiendraient dans votre voiture jusqu'à la fin de la vie de votre voiture, et puis d'autres pièces du moteur. Et en fait, petit à petit, j'ai évolué, je suis devenue directrice commerciale, c'était mon précédent emploi avant d'être stratège. Et ensuite, je suis devenue stratège. Alors stratège, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, y avait bien quelqu'un qui réfléchit, ou en tout cas un petit groupe qui réfléchit dans l'entreprise à la direction que l'entreprise va prendre, aux futurs produits qu'on va mettre en avant, au marché qu'on veut conquérir, aux employés qu'on veut garder aussi, pas nominativement, mais par exemple se dire tiens, il y a des nouvelles compétences qu'il faut qu'on acquiert, un nouveau département qu'il faut qu'on crée, et c'est ça mon métier aujourd'hui.
Et alors j'imagine que maintenant étant stratège, on vous dit mais tu connais rien en mécanique, il vaudrait mieux prendre un homme à ta place, non? Vous
alors,
avez pas ça?
Dieu soit loué, je vis en Suède. Ce qui fait une grande différence sur ces questions-là. La plupart des réflexions et des commentaires que j'ai eu tristement, je les ai eu. Alors pas qu'en France, hein, en Europe du Sud aussi beaucoup.
Oui, à j'imagine.
À une époque, je gérais dans le maritime le marché grec. C'était déjà un peu plus sport. Donc en Suède, il y a vraiment un tabou autour de traiter les femmes différemment parce qu'elles sont des femmes. Donc ça veut probablement pas dire, il n'y a aucun pays qui a l'égalité parfaite. Donc ça ne veut absolument pas dire que les gens me voient pas différemment. Ça veut dire que à minima, j'ai pas le droit aux réflexions parce que les gens se sentent pas à l'aise de les faire parce que c'est vraiment grave en fait.
Par contre, ils peuvent le penser et agir en conséquence.
Forcément, par exemple, quelque chose que je sais, c'est que quand je rentre dans une nouvelle conversation avec un nouvel interlocuteur, je m'assure de présenter mon parcours pour que les gens se disent pas que j'ai atterri là par hasard, encore une fois, parce que il y avait du chauffage et de la lumière, quoi.
Oui, oui. Donc vous avez réussi brillamment vos études. Alors brillamment, ça a été compliqué. Au début, vous l'expliquez dans votre livre, tout vouloir, tout avoir. C'est même l'un des premiers chapitres. Vous avez eu du mal au départ. Expliquez-nous.
On aurait pu croire que une fois que j'ai réussi à rejoindre l'école qui me faisait absolument rêver et le métier que je voulais absolument faire, quoi, j'étais sur le chemin maintenant que j'avais rejoint l'école, on aurait pu croire que ça allait être un grand moment de bonheur. Pas du tout. En fait, immédiatement, c'est devenu une source de stress extrêmement intense pour moi. Alors, tous ceux qui ont fait prépa ou PACES ou ce genre de trucs très compétitifs savent très bien que ça vient avec sa part de stress. Mais moi, ce que je me rajoutais par-dessus ça, c'était mon syndrome de l'imposteur. Et donc, je contribuais activement à m'auto-saboter en me disant qu'en fait, justement, comme je n'avais absolument aucune possibilité d'échouer, pas de plan B, pas de recours des parents d'un milieu modeste qui allaient difficilement pouvoir me trouver une alternative à cette alternative excellente et gratuite que j'avais trouvée, typiquement, ça me mettait une pression énorme. Et en fait, je me disais simplement que j'avais atterri là par hasard, qu'on m'avait choisi par accident et qu'à un moment donné ou à un autre, quelqu'un allait se rendre compte que j'avais pas ma place.
Oui, oui. C'était conscient, ça ?
Alors, c'était surtout permanent, c'est-à-dire que c'est à la fois conscient et inconscient, c'est-à-dire que c'est un bruit dans la tête en permanence. Et là où ça devenait le plus difficile pour moi à gérer, et tristement là où ça m'impactait le plus, c'était pendant les examens. C'est-à-dire qu'en fait, on a une fois par semaine des DS, des devoirs sur table en fin de semaine. C'est extrêmement important, évidemment, puisque c'est le moment où on est évalué. Et moi, en face, dans le silence de la salle, en face d'une feuille blanche, le bruit devenait assourdissant en fait.
Oui, oui. Alors que vous suiviez très très bien les cours et même les professeurs s'en rendaient compte.
Absolument. Donc à terme, un de mes professeurs de conception a fini par s'en rendre compte parce que par ailleurs, il voyait très bien que j'étais capable de faire un certain nombre de choses en cours, que j'avais des questions qui étaient pertinentes, qu'il répondait aux questions et que j'avais l'air de comprendre la réponse. Et alors, c'est le point culminant, ça a été le moment où le lendemain d'un cours de conception, il y avait le fameux devoir sur table et où j'ai répondu à côté de la question alors qu'on l'avait préparé la veille. Et là, en fait, ce prof m'attrape et me dit « Mais tu dois te foutre de ma gueule, c'est pas possible parce que t'as l'air de comprendre, visiblement. Et après, les devoirs, c'est pas du tout ce que je crois que ça va être. » Et donc, on finit par discuter et je lui explique qu'en fait, non, j'ai juste l'impression et je suis convaincue à ce moment-là qu'on va me demander de rentrer chez moi, qu'il est rigoureusement impossible que j'arrive, en fait, à devenir ingénieur.
Oui, parce que vous êtes une femme, parce que vous venez d'un milieu modeste, il y avait tout ça.
C'est ça. Alors après, c'est tout ce genre de choses, c'est très intersectionnel, hein, ça se cumule très très bien. C'est-à-dire que moi, pour le coup, il y a aucun rôle modèle autour de moi qui fait ce genre de métier. Tous mes camarades de classe ont très peu de choses en commun avec moi, puisque déjà, je suis une femme. Bon, il y en a 30% dans l'école, mais enfin, quoi qu'il en soit, ça reste une minorité. Je viens d'un milieu modeste, alors que tout le monde a fait 3 fois le tour du monde. C'est-à-dire que j'avais dans ma classe des enfants de diplomates,
oui,
des enfants
oui.
d'ingénieurs, des enfants de directeurs généraux d'entreprise. Moi, mon père, en fait, il travaille dans les travaux publics, il est ouvrier, il posait de l'asphalte, quoi. Donc vraiment une vie où on n'a rien en commun. J'avais 16 ans, donc il y a aussi des histoires de maturité puisque je suis arrivée jeune.
Étiez surdouée ?
Oui, et du coup je suis arrivée jeune dans l'école et donc tout ça qui se cumule fait que à ce moment-là, en fait, mon syndrome de l'imposteur qui est un peu cette espèce de saboteur qui habite le cerveau de beaucoup de femmes, il prend le dessus quoi.
Oui, oui, alors que pourtant vous étiez plus jeune, vous aviez 16 ans, donc à la base quand on a 16 ans et que on rejoint des cours de personnes qui ont 18, 19 ans, c'est qu'on a la capacité intellectuelle.
Mais c'est ça qui est fascinant. Quand on voit toutes les femmes qui souffrent de syndrome de l'imposteur, c'est souvent les femmes qui ont le moins de raisons de se poser des questions sur leurs capacités et leurs compétences. Souvent, moi, les femmes que j'accompagne maintenant en coaching, c'est des femmes qui sont dans les comités les comités exécutifs de banque et qui sont clairement pas arrivés là par hasard parce qu'on ne fait pas de cadeaux aux femmes dans leur carrière. Donc si elles sont arrivées là, c'est que je vous raconte pas ce qu'elles ont dû encourir, enfin tout ce qu'elles ont dû mettre sur la table pour qu'on leur fasse confiance. Donc clairement, c'est pas les personnes qui devraient douter qui doutent. Il y a de nombreuses études scientifiques qui montrent ça. Ça peut être expliqué notamment par l'effet Dunning-Kruger. L'effet Dunning-Kruger, c'est un effet qui est trouvé par deux sociologues et qui en fait explique que plus on est intelligent, plus on est compétent, plus on se rend compte des limites de son intelligence et de sa compétence.
Oui.
Et donc, plus on se rend compte des limites de son intelligence et de sa compétence, plus on se sous-estime. Par opposé, les gens qui sont bien moins compétents, sont bien moins à même de répondre à la tâche, peuvent très largement surestimer leurs compétences, qu'en fait, ils n'ont juste pas la vision de l'ampleur de la tâche.
Oui.
En résumé, c'est ce que ma grand-mère aime bien appeler, dire en fait, les tonneaux les plus vides sont ceux qui font le plus de bruit.
Oui, oui, très bonne expression. Mais du coup, il y a quand même des gens, des femmes et des hommes qui se rendent compte sur leur lieu de travail que ils sont pas à la hauteur. Et c'est pas forcément lié à un syndrome de l'imposteur. C'est devant la tâche, ils se rendent compte qu'ils sont un peu limites par rapport à d'autres.
Alors c'est possible, mais la différence, elle se loge dans est-ce que c'est systématique ou est-ce que c'est spécifique. C'est-à-dire que je peux très bien, par exemple, me dire que je suis pas du tout compétente pour animer une émission de radio. Parce que je ne sais pas faire, je n'ai pas les compétences, que c'est un métier, etc. Mais si par contre, je commence à me dire que par ailleurs, je ne suis pas compétente non plus pour le coaching, pour l'écriture d'un livre, si je viens dans cette émission en me disant « je n'ai rien à vous dire, Carole », alors oui. Que clairement, j'ai écrit un livre de 250 pages, je n'ai pas rien à vous dire. Mais si c'est le sentiment dominant quand je viens, ça peut être que du syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, il se reconnaît souvent dans les contradictions qu'il a même vis-à-vis de lui-même, dans
D'accord.
ce qu'il vous dit. Une autre contradiction qui est assez typique, c'est tous mes succès dépendent de circonstances extérieures, du genre j'ai eu de la chance, j'avais des bonnes équipes, il y avait des gens pour me soutenir, j'arriverai pas à le faire une deuxième fois. Mais par contre, tous mes échecs me sont pleinement imputables. Du genre, forcément c'est de ma faute. C'était pas de la faute du temps, c'était pas de la faute du métro, c'était pas de la faute de, je n'en sais rien, du fait que j'avais pas l'aide que j'aurais dû avoir, etc.
Oui, ça, c'est typique du syndrome de l'imposteur.
Ça, c'est typique. Donc, si les gens qui nous écoutent se reconnaissent là-dedans, c'est pas un problème de compétence dans ces cas-là. C'est un problème de s'auto-saboter.
Oui, et comment on peut faire si on pense qu'on a peut-être ce syndrome? Qu'est-ce qu'on fait?
Alors, un des tout premiers conseils que je peux donner à nos auditeurs et nos auditrices aujourd'hui, c'est de faire une liste de leurs accomplissements. Alors, il y en a peut-être déjà qui se disent « Oh mon Dieu, je vais absolument rien avoir à écrire. » C'est rigoureusement impossible. Vous n'avez pas rien à écrire. Déjà parce qu'on est un certain nombre à avoir survécu à une pandémie. Donc déjà, bon, dans l'eau, ça devrait être quelque part dans la liste, ça. Il y a forcément des choses que vous avez fait que vous avez réussi. Si vous vous dites que vous n'avez rien fait, c'est clairement justement à nouveau votre syndrome de l'imposteur qui vient se mettre en travers et qui se dit « Mais non, rien n'est digne d'être noté. » Donc, le deuxième conseil qui va avec ce premier conseil, c'est de se dire « Traitez-vous en ami. » Donc, si vous auriez félicité un ami ou une amie pour cette tâche, parce qu'ils ont réussi, et que vous ne le faites pas vis-à-vis de vous-même, c'est une forme d'injustice par rapport à vous-même. C'est
oui,
juste
c'est
pas correct.
C'est intéressant de déplacer vers une autre personne. Oui, oui.
Souvent, ça aide, en fait. On a du mal à se juger, surtout au début, quand on n'a pas l'habitude. On a du mal à mettre le curseur de ses valeurs à l'intérieur de soi-même. On a beaucoup besoin du regard des autres. C'est beaucoup mis en valeur chez les femmes d'avoir besoin du regard des autres. Et donc, autant essayer de déplacer le regard un petit peu au début pour se faciliter l'exercice. Donc se dire, est-ce que j'aurais félicité ma fille, ma cousine, ma belle-sœur, mon amie parce qu'elle a acheté un appartement ou parce qu'elle a réussi à passer son permis ou parce qu'elle a survécu à ce collègue toxique ou elle a trouvé un travail en dépit des circonstances économiques ou ce genre de choses. Un certain nombre de choses que les gens ne penseraient pas à écrire forcément, mais pour lesquelles ils féliciteraient quelqu'un d'autre.
Oui, oui. Donc ça, ce sont des choses à penser. Il faut vraiment penser qu'on peut avoir ce syndrome. Est-ce que vous conseillez d'aller voir un psy pour bien régler ces problèmes?
Alors, c'est hyper intéressant comme question parce que typiquement, aller voir un psy, c'est de toute façon, je trouve, en général, très utile pour plein de gens. La santé mentale, c'est extrêmement tabou. On ne sait pas pourquoi. Les gens n'ont aucun problème à avoir un généraliste, mais c'est problématique d'avoir un psy. Après, notre système de santé n'aide pas les choses parce que typiquement, avoir un psy, ça coûte de l'argent et je comprends qu'il y ait beaucoup de gens qui ont du mal à se financer ce genre d'aide. Donc ça, c'est hyper intéressant. La différence, par exemple, que vous pouvez avoir entre un psy et un coach, c'est que le psy va traiter les causes du pourquoi et ça peut être hyper intéressant d'aller chercher le pourquoi. Et le coach, lui, par contre, traite le comment. Hein ? C'est-à-dire que si aujourd'hui vous vous dites « Bon, ok, j'ai compris mon syndrome de l'imposteur, bon, j'ai compris d'où ça venait, ou alors je m'en fous d'où ça vient, mais par contre, je veux que ça arrête de me pourrir la vie tous les jours de l'année au travail », alors là, vous pouvez trouver un coach qui vous aidera à régler cette question.
Oui, comme vous, par exemple.
Par exemple, comme moi, c'est ce que je propose à un certain nombre de mes clientes, qui est en fait de gérer le quotidien avec des outils. Je vous en ai donné un là tout à l'heure quand on parlait de la liste des accomplissements. Il y en a plein d'autres qui permettent de, au quotidien, remonter cette confiance concrètement et aussi savoir concrètement comment on gère ça au travail, comment on fait sa publicité, comment on fait son storytelling, comment on dit non, qui sont des sujets qui sont très connexes en fait à cette histoire de syndrome de l'imposteur.
Oui, alors Sarah Zitouni, on a parlé du syndrome de l'imposteur, mais il y a d'autres freins dans l'entreprise à la montée en poste des femmes, à leur épanouissement dans le milieu professionnel. On a évoqué le sexisme des collègues masculins, même des collègues féminines aussi. Comment vous faites face? Comment vous pouvez faire face? Comment d'autres peuvent faire face, vous qui être coach, qu'est-ce que vous conseillez?
Alors, typiquement, ça rejoint très bien notre premier sujet, c'est-à-dire que plus on a confiance en soi, le mieux sa valeur est ancrée en soi, le moins l'opinion des autres a de l'importance. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que ça devient soudainement réjouissant de parler avec le Jean-Mimi de la cafette qui fait blague sexiste sur blague sexiste, mais soudainement, ça ne devient pas un truc qui nous tire vers le bas. Et par conséquent aussi, on ne donne pas forcément sa valeur aux autres, en fait, on ne laisse pas les autres jauger où est notre valeur. Donc, on est moins à la merci de la mauvaise foi de certains, de manque d'attention d'un manager inattentif, etc., etc. Donc, ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, donc, une fois qu'on a confiance, une fois qu'on se sent plus à l'aise, etc., et tout, c'est de savoir tout d'abord qu'il y a un certain nombre de choses qui tombent sous le coup de la loi, déjà, en France. C'est pour ça qu'il y a un petit guide légal dans le livre, c'est parce que je sais qu'un certain nombre de femmes ne se rendent pas compte qu'en fait elles n'ont pas à subir certains comportements qui tombent sous le coup de la loi. Je vous donne un exemple assez extrême mais complètement véridique. Chez un de mes précédents clients, il y a plusieurs années, dans les bancs d'essai moteurs de ce client, sur des écrans d'ordinateurs placés en hauteur, comme des télés quoi, circulaient en permanence toute la journée des films pornographiques. Il faut savoir que ce genre de choses, ça tombe sous le coup de la loi. C'est en fait pleinement illégal de soumettre des employés à ce genre de comportement parce que ça crée un environnement de travail qui n'est pas safe. Donc ça tombe typiquement sous le coup de la loi pour outrage sexiste et harcèlement sexuel. Donc ça, c'est des choses qu'il faut savoir. Et puis, même si ça tombe pas sous le coup de la loi, vous avez le droit de refuser un certain nombre de comportements de la part de vos collègues. Il faut savoir dire non. En fait, dire non, ça fera pas de vous... une chieuse, quoi, en gros. C'est-à-dire que ces gens-là, s'ils ont décidé de vous attribuer de toute façon ce sobriquet, vous allez en hériter d'une manière ou d'une autre et vous plier à leur désir, ça vous aidera pas spécialement plus. Donc, autant s'assurer de vivre dans l'environnement dans lequel on veut vivre au travail et par conséquent, tant pis si ça plaît pas à certains, en quelque sorte, hein.
Oui, oui, il faut le faire, Sarah Zitouni. On continue à en parler avec vous. Je rappelle, Tout vouloir, tout avoir, assume la bosse qui est en toi. C'est votre livre aux éditions Kiwi.
Vous écoutez Vivre, c'est épatant avec Carole Clémence.
Vivre, c'est épatant avec Sarah Zitouni aujourd'hui, l'auteur de Tout vouloir, tout avoir, assume la bosse qui est en toi aux éditions Kiwi. Elle est coach, elle nous explique comment être une meilleure employée, comment être meilleure dans son milieu professionnel, moins se laisser bouffer par ses collègues masculins, moins se laisser faire, être plus affirmative, mieux s'en sortir et mieux monter les échelons. Il faut savoir que les femmes, même si elles font les mêmes études, eh bien, elle se retrouve plus à la base d'une entreprise qu'au sommet.
Alors, c'est même plus dramatique que ça parce qu'en fait, typiquement, les femmes sont meilleures pendant les études. On sait qu'il y a plus de bachelières que de bacheliers. Il y a plus de femmes qui sont diplômées des études supérieures aussi. Et en fait, on les perd à différents moments de la carrière. Donc, typiquement, on les perd dans les premières années de la carrière, déjà, parce que être confrontée au monde de l'entreprise qui a des codes très différents du monde éducatif et qui sont... écrit par les hommes, essentiellement pour les hommes, donc potentiellement hostile aux femmes, c'est très difficile pour un certain nombre de femmes. Et ensuite, on les perd aussi, on le sait, au moment du premier enfant, donc avec la maternité, où en fait, c'est des questions sociales, hein, si on ne met pas en place ce qui est nécessaire, si la répartition des tâches n'est pas correcte dans les couples, s'il n'y a pas le tissu social autour qui est nécessaire, et on finit par très vite se dire... qu'on serait mieux à décrocher, à s'occuper de son enfant. C'est un rôle en plus qui est valorisé plus par la société que le rôle d'une femme qui fait carrière. Hein. Dans les stéréotypes, il y a des rôles qui sont quand même plus mis en avant que d'autres. Et de la même manière, en fait, c'est même dans le salaire que ça se voit. Parce que typiquement, quand les hommes deviennent pères, ils gagnent un bonus, entre guillemets, de 6% sur leur salaire par rapport aux autres hommes. Donc pour la même tranche d'âge, les mêmes compétences, la même expérience, un homme qui est père est mieux payé qu'un homme qui ne l'est pas.
C'est curieux, ça.
C'est parce qu'ils sont jugés plus fiables. On considère que quand un homme est père, en gros, il s'est fait coincer. Donc maintenant, il va devoir rapporter pour sa famille. Et donc, c'est quelqu'un qui va être fiable, qui va être docile, qui va être malléable dans l'entreprise. C'est un peu la vision et le stéréotype derrière. Et donc, le stéréotype opposé, c'est que quand une femme devient mère, eh ben, en fait, elle perd 4,6% de son salaire par rapport à, encore une fois, la même tranche d'âge, la même expérience, les femmes qui sont au même niveau qu'elle. Et donc, en fait, c'est lié au fait qu'on considère que là, en l'occurrence, une femme qui est mère, elle est moins fiable.
Et oui, parce qu'elle s'occupe des enfants.
Parce que voilà, elle s'occupe des enfants, elle va prendre le congé enfant malade, il y aura un congé maternité, et ceci et cela. On parlait tout à l'heure aussi du droit et de la loi, par exemple. Il est obligatoire hein, dans la loi, quand on revient de congé maternité, de toucher l'augmentation de salaire moyenne qui a été versée dans l'entreprise pendant qu'on était en congé maternité. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ne le savent pas. Il y a beaucoup d'entreprises qui font semblant de l'oublier aussi.
Ah oui, oui. Et alors là, c'est en France ou c'est en Suède également ?
Alors ça, c'est typiquement en France, ce que je vous dis là. Et en Suède, là où c'est un peu différent, c'est qu'en fait, il a instauré un congé parental. Et le congé parental est beaucoup plus également partagé entre hommes et femmes. En Suède, le congé parental, il est de 480 jours à partager entre les deux parents. Il y a 90 jours qui reviennent à chacun des parents. Si les 90 jours ne sont pas pris par un des deux parents, ils perdent la moitié du congé parental.
Oui, oui. Alors, effectivement, il y a une grosse inégalité, mais qu'est-ce qu'on peut faire en matière de coaching ? Qu'est-ce que vous pouvez faire ?
Alors, ce qui est important, vraiment et vital, c'est, je ne dis pas ce genre d'inégalité pour genre déprimer tout le monde et aller, c'est bon, les gens, on peut tous se coucher et mourir parce qu'on ira nulle part. En fait, il faut déjà en avoir pris conscience pour savoir que, un, ce n'est pas de sa faute quand ça marche moins bien. Deux, qu'il y a des endroits qui fonctionnent. C'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver dans une entreprise où les choses se passent normalement, entre guillemets. Hein. On n'est pas là pour décerner justement des prix de participation. Il y a des gens qui travaillent correctement. Donc quand on est dans une entreprise avec une culture d'entreprise qui est toxique, le coaching, ça peut vous aider à vous en rendre compte et aussi à vous rendre compte que vous méritez mieux. Donc que vous méritez un endroit qui vous traite correctement en fonction de vos compétences et pas de votre genre. Ça peut aussi permettre de poser des limites claires, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Souvent, on a peur de dire un non ferme et clair. Mais un non ferme et clair, en fait, souvent, ça amène moins de discussions, moins de conflits que ce qu'on croit. C'est dans le flou qu'il y a un loup en général.
D'accord, oui, oui. Vous prenez des... on peut vous amener, on est cliente, on peut vous amener une situation de travail précise et vous pouvez donner des conseils précis, c'est ce qui se passe ?
Oui, alors typiquement, pour vous donner un exemple, moi j'ai une cliente qui est venue me voir et qui m'a dit « Bon voilà, alors il y a une inadéquation dans mon entreprise. Bon, moi je suis l'ingénieur de la boîte, mais je travaille dans le luxe et c'est tous des créatifs, ok ? J'arrive pas à m'imposer, j'arrive pas à leur faire comprendre que s'ils prennent pas en compte mes considérations platement, bassement humaine de production, mais quand même importante, on va aller droit dans le mur. Comment je fais pour leur faire comprendre ? Évidemment, comme on disait tout à l'heure, avec des questions de « je suis pas du sérail parce que je viens pas du milieu du luxe moi-même, je suis la seule qui est différente », voilà, le fameux « je suis un monstre », quoi, parce que je suis différente dans un milieu qui, lui, est uniforme.
Oui.
Donc déjà, il y a l'acceptation du fait qu'en fait, quand on est une variation dans un milieu uniforme, on n'est pas un monstre, on est plutôt une licorne. C'est-à-dire que, un, on ressemble aux autres parce que quand même, on est tous un peu, on a toujours des points communs. Mais que notre différence, ça peut être un truc assez charmant, comme la corne de la licorne. Notamment un truc très, très valorisé en entreprise. Parce que la différence, c'est aussi l'occasion d'avoir des idées, justement, qui changent un peu et pas de râler dans le mur. Et ensuite, on discute, elle et moi, pour établir une stratégie et faire en sorte de lui donner des éléments de storytelling pour qu'il puisse... elle et ses collègues se rencontraient quelque part sur un terrain un peu au milieu. Donc peut-être qu'elle pouvait présenter les choses de façon un poil plus créative et puis en même temps faire passer le message qu'ils allaient quand même avoir besoin de l'écouter jusqu'au bout, même si ce n'était pas le truc le plus réjouissant pour eux, parce que ce n'est pas ce qu'ils préfèrent.
Oui, oui. Et donc vous faites ce coaching depuis 2020, ça fait un an à peu près. Vous êtes toujours en Suède dans cette entreprise automobile, c'est bien ça ce grand groupe. Et vous êtes alors ingénieur mais aussi stratège. Alors pourquoi vous lancez dans le coaching? Il y a pas assez de travail?
Oui, c'est ça. Ça fait des longues semaines, je peux vous le promettre. Mais alors typiquement en fait le coaching c'est venu comme un aboutissement de d'autres éléments dans ma vie. C'est-à-dire que au début j'ai commencé par donner des conseils sur Instagram, donc sur mon compte Power Ta Carrière, et en fait petit à petit les conseils prenaient de plus en plus, il y a de plus en plus de gens qui étaient intéressés pour savoir donc je n'ai pas à m'excuser 14 fois par jour et je peux dire ça à la place, ah c'est hyper intéressant, etc. Et donc les gens commençaient à me dire au début à me poser des questions et c'était beaucoup les mêmes questions qui revenaient, et comme justement le temps est limité, j'ai commencé à écrire un e-book en ligne que j'ai mis à la disposition des gens pour dire, bon, écoutez, les questions qui reviennent le plus souvent, elles sont dans le e-book, comme ça, moi, je peux en traiter d'autres. Et ensuite, les gens ont commencé à me dire, mais c'est hyper intéressant, j'ai travaillé sur ton e-book en auto-coaching, mais ça m'intéresserait d'être vraiment coachée. Est-ce que tu peux nous proposer ce service? Et donc, j'ai commencé à le faire parce que, voilà, la demande l'a fait, mais parce que aussi, ce qui est hyper important pour moi, c'est pourquoi j'ai créé Power Ta Carrière au début, c'est cette idée que j'aime pas le gâcher. Et le potentiel le plus inexploité en entreprise à l'heure actuelle, c'est le potentiel des femmes. C'est-à-dire qu'elles soient dans l'entreprise ou toutes celles qu'on aurait pu recruter. Et c'est un potentiel très largement inexploité, alors que par ailleurs, notre monde fait face à des challenges jamais vus auparavant, comme les questions climatiques, la gestion des flux de population, la gouvernance du monde, etc. Et donc, avec toutes ces questions, on se dit tranquillement qu'on va pouvoir se priver de l'intelligence de 51% de l'humanité et que ça va passer crème. Moi, je trouve que c'est pas possible. Je me dis que non, en fait. La seule chance qu'on a de s'en sortir, c'est de réfléchir tous ensemble. Et que tant qu'on continue à sous-exploiter le potentiel des femmes, à leur faire croire qu'elles valent moins que ce qu'elles valent, à les laisser se débattre dans leur syndrome de l'imposteur, on va finir par faire une bêtise et passer à côté de la prochaine Marie Curie ou de la prochaine Hedda Lamarr ou de la prochaine Alice Guy. Et que, voilà. Et ça, je considère que c'est juste inacceptable. Donc, ma contribution, c'est de dire que je vais essayer petit à petit, moi, de mon côté, de donner confiance au maximum de femmes pour qu'on, dans le lot, s'exprime une femme extrêmement intelligente qui va nous trouver une solution très brillante.
Et oui, pourquoi pas? Oui. Et ça vous prend beaucoup de temps, ce coaching?
Alors, il n'y a pas que le coaching, hein, puisque c'est une entreprise, Power Ta Carrière. Donc, en tout combiné, pour être transparent, Power Ta Carrière, j'y passe 20 heures par semaine. Et comme par ailleurs, j'ai un métier sur lequel je passe 40 heures par semaine, ça fait des semaines longues.
Oui, ça fait de très longues semaines.
Voilà.
Et vous tenez le coup?
Ah bah oui, on prend soin de soi par ailleurs.
Le coaching, c'est en direction des femmes francophones ou c'est vraiment les femmes suédoises, les femmes anglaises? Ça peut être tout le monde? Chez quel public?
Alors oui, non, typiquement, c'est plutôt des femmes francophones, mais du coup, j'ai travaillé avec des femmes belges, avec des femmes aux États-Unis, au Canada, des personnes qui sont immigrées comme moi. Donc ça, c'est toujours très intéressant de voir qu'il y a des gens, il y a des Français, des Françaises ou des francophones, même un peu partout.
Oui, et vous suivez une différence selon les pays? Vous voyez des choses intéressantes, justement, selon les pays, des choses différentes?
Alors, typiquement, oui, hein, y a des différences entre les pays, c'est ça qui est un peu fascinant. Et en même temps, c'est marrant parce qu'il y a des problématiques qui traversent tout le monde. Hein. On parlait tout à l'heure du syndrome de l'imposteur, mais aussi de la peur de l'échec. Et en fait, typiquement, c'est des problématiques qui traversent tout le monde et puis qui traversent des gens qui sont en début de carrière, puis des femmes qui ont 40 ans, qui me contactent maintenant, ou alors des femmes, comme je vous dis, qui dirigent des banques, mais par ailleurs aussi des femmes qui travaillent dans l'humanitaire. C'est intéressant parce que c'est très transverse comme question.
Et alors vous avez commencé par travailler, vous avez fait vos études en France, vous avez travaillé un an en France avant de partir en Suède où vous êtes toujours. La France, c'est beaucoup plus sexiste que la Suède, j'imagine, dans le milieu professionnel.
Alors,
c'est peut-être pour ça que vous êtes partie.
Alors oui, à proprement parler, il est vrai que les pays nordiques sont connus pour être plutôt en avance de la meute hein, sur ce genre de questions. Alors comme on disait tout à l'heure, il n'y a aucun pays qui atteint l'égalité parfaite entre les hommes et les femmes. Il continue à y avoir des problèmes littéralement dans chacun des pays. La Suède aussi traverse ses propres challenges, mais par ailleurs, oui, dans le monde professionnel, il y a des progrès qui ont été faits, qui sont importants, qui sont conséquents en Suède par rapport à la France. Et c'est aussi pour ça que justement, en ayant une vision extérieure, ça m'aide à pouvoir dire aux gens que non, on n'a pas à accepter le quotidien parce qu'il est comme il est en fait. Et que c'est en fait l'impact et la détermination de chacune qui fait aussi avancer les choses pour soi et pour les autres.
Oui, oui. Alors ces femmes qui ne trouvent pas leur place en entreprise, parfois elles essaient de créer leur propre entreprise. C'est peut-être une solution.
Alors, si c'est une vraie vocation, c'est admirable. Hein, je ne vais pas vous jeter la pierre. Moi, je suis à la fois salariée et entrepreneur. Donc clairement, si c'est votre vraie vocation, il n'y a pas de souci. Par contre, si c'est l'alternative de me dire « Tiens, je vais aller créer mon entreprise parce que comme ça, plus personne m'emmerdera. Fini les hommes. »
Je serai tranquille.
Ou fini les pénibles, en tout cas. Je serai tranquille. Voir les questions de se dire bah, « Comme ça, c'est plus facile pour la famille. C'est plus facile pour équilibrer toute la vie. » Vous voyez, tout vouloir, tout avoir, c'est aussi ça comme dimension. C'est « Bon, bah, je pourrais équilibrer un peu plus toutes les choses que je veux dans la vie. » Et ben en fait, tristement, ça n'est pas ce que les chiffres montrent. Les chiffres nous montrent qu'en fait, donc là, c'est des chiffres de la Banque de France. Hein, ils nous montrent qu'en fait, il y a un rejet par les banques des projets qui sont sponsorisés ou en tout cas qui sont présentés par des femmes qui est deux fois plus élevé que pour les projets qui sont présentés par des hommes.
C'est énorme. Ouais. Sachant que les femmes se lancent moins en plus.
Sachant que les femmes se lancent plutôt moins et sachant que, bon. Voilà, c'est-à-dire que évidemment il y a des projets à trier, je comprends que ce soit le métier des banques, mais deux fois, ça fait quand même vraiment mal à la tête. Hein. Et puis, par ailleurs, si vous dites, bon bah tant pis, les banques c'est des quiches, je vais aller voir plutôt des business angels ou des investisseurs ou ce genre de choses, il faut savoir qu'en levée de fonds chaque année, il y a seulement 2% de tous les fonds, des levées de fonds, qui sont versés à une entreprise qui est créée par une femme.
Donc oui, c'est 2%.
2%, hein. Donc on est dans le trait dans l'épaisseur du trait, hein, quasi. Et donc en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus l'INSEE par ailleurs sur les mêmes années nous montre que la profitabilité des entreprises qui ont une dirigeante à leur tête, par contre, elle est 9% plus importante que les entreprises qui ont un dirigeant. Donc en fait moi si je regarde de mon côté un peu bêtement en tant qu'épargnant ou investisseur et je me dis tiens où est-ce que je mettrai mes sous, les chiffres ont l'air de nous dire plutôt qu'il faudrait les mettre dans des entreprises qui sont créées par des femmes parce que bah, en fait il y a un meilleur retour sur investissement.
Mais c'est intéressant, c'est moi à savoir.
C'est intéressant n'est-ce pas, mais en fait on a cette difficulté que bah oui même les investisseurs, même les business angels, même les banques ne prennent pas des décisions 100% rationnelles comme on pourrait nous le faire croire.
Oui.
Et qu'on est tous habités, femmes comme hommes, de plein de biais comportementaux, sexistes, parce qu'on vit dans une société qui n'est pas égalitaire.
Oui, et on peut imaginer qu'une entreprise créée par une femme va peut-être aussi avoir plus de mal à trouver des clients.
Alors, c'est tout à fait possible. Hein. Moi, j'ai des retours dans ce sens-là. Alors, ça n'empêche pas du tout de prospérer, mais j'ai des retours dans ce sens-là de femmes qui me disent « J'ai vraiment galéré à avoir mes premiers clients. Ensuite, ça s'est bien passé. » Ou aujourd'hui, une de mes abonnées, architecte par ailleurs, me disait « Je peux plus supporter, je vais pas pouvoir supporter un meeting supplémentaire avec quelqu'un qui va me faire passer 30 minutes d'abord d'entretien pour vérifier mes compétences avant qu'on discute business. C'est pas possible, quoi. C'est-à-dire que ça fait des années que je travaille, je suis architecte, je suis certifiée comme tout le monde. Et si je recroise un nouveau Jean-Mimi qui me fait passer un entretien d'embauche, je vais péter un câble.
Ah oui. C'est incroyable. Une personne installée va encore devoir prouver ses capacités, ses compétences, alors qu'on ne va pas demander probablement la même chose à un homme du même profil.
C'est ça, et donc raison de plus, comme on disait tout à l'heure, pour ne pas s'excuser d'exister, pour ne pas passer son temps à se faire toute petite en entreprise, etc.
Donc cette dame, qu'est-ce qu'elle doit dire à ce monsieur qui va lui demander son curriculum vitae pendant 30 minutes ?
Alors, par exemple, ça peut être très intéressant de tourner ça comme une conversation, donc de poser à l'inverse les mêmes questions aux clients en face. C'est-à-dire pour notamment montrer l'aberration de la conversation, dire à la personne « Et vous alors ? Du coup, ça fait combien de temps que vous êtes dans le bâtiment ?» Et ça peut être extrêmement intéressant parce que si l'autre personne se sent outrée, bon bah, du coup la conversation s'ouvre. Oui, mais pourquoi vous me posez les questions à moi alors ? Et puis si l'autre personne n'est pas trop perdue pour la cause, normalement il doit se rendre compte instantanément que bon, on n'est pas sur le bon terrain de conversation, on va recentrer tout ça sur le business.
Oui, une bonne idée de retourner la question. Ça doit bien fonctionner. Et alors, comment faire ? On est dans une entreprise avec une majorité d'hommes. On sent qu'ils nous considèrent moins bien parce qu'on est une femme. Est-ce qu'on peut leur dire ? Est-ce qu'on peut dire je suis une femme, mais je vaux autant que vous ? Comment le faire ?
Alors, je pense que déjà, vous allez voir qu'en fait, quand vous avez confiance en vous, il y a une grande différence qui se fait sur la façon dont les gens autour de vous se permettent de vous traiter. Parce qu'en fait, c'est ce que je dis à beaucoup de personnes et à beaucoup de mes clientes, c'est que souvent, elles ne respectent pas elles-mêmes le travail qu'elles font. Ça rend les choses encore plus faciles pour certaines personnes de ne pas respecter le travail qu'elles font. Parce qu'en fait, si vous ne le respectez pas vous-même, c'est compliqué de l'imposer aux autres.
C'est-à-dire qu'il ne faut pas trop être humble.
C'est ça. Et donc, par exemple, la modestie, déjà, c'est une bêtise. Parce qu'en fait, la modestie, c'est quelque chose qui est très, très fortement poussé sur les petites filles depuis toute petite, etc. Et ensuite, on en arrive à cette situation où on se dit, ah ouais, mais quand même, si je dis mes accomplissements, les autres, ils vont croire que, et puis ça va être mal perçu, gna, et puis ceci, et puis cela. Mais en fait, à force d'être discrète, eh ben, on en arrive à être invisible. Et par conséquent, bah, après, c'est pas très surprenant que les autres autour nous traitent comme quantité invisible. Donc, il faut savoir faire sa promotion, son storytelling, prendre à plein la maternité de ses idées. Un truc qui est tout bête. Je suis déjà arrivée dans des réunions commerciales où la seule femme de la pièce était assise genre au bout, au coin de la table. Okay ? Genre en punie au coin de la table là-bas, qu'on n'entendait pas sa voix et qu'on la voyait pas. Okay ? J'ai même vu des fois dans des réunions ou des conférences importantes où il y avait peu de place, des femmes d'elles-mêmes prendre les tabourets qui étaient le long du mur. Ne faites pas ça, je vous en supplie. Asseyez-vous à la table, là où il y a les gens, au centre, oui. Là où ça discute. Parce que forcément, c'est compliqué de prendre la parole, c'est compliqué de s'imposer, c'est compliqué de s'affirmer, de présenter ses idées, en s'étant déjà mis dans un coin. Donc en fait, vous me parlez, Carole, du sexisme pas mal des employés autour, mais en fait, il faut déjà pas se laisser piéger par son sexisme intériorisé et encore une fois, son saboteur intériorisé.
Oui, il y a des choses comme ça à se dire pour avoir confiance en soi sur le bon moment.
Alors, ça ne dispense pas d'un travail dans la profondeur, mais il y a des petits trucs quand même. Déjà, il y a un truc qui s'appelle les power poses. Donc, typiquement, et là, on va essayer de vous décrire ça à la radio, ça va être sport. Mais, en fait, vous voyez Rocky, quand il monte les escaliers, qu'il lève les bras en V, qu'il est tout content.
Oui.
Bon, ben, si vous faites ça dans les toilettes, un peu discret peut-être, ou chez vous avant de partir au travail, si vous faites ça un petit moment, on parle de peut-être 30 secondes, vous dites, j'ai l'air con quand même et tout, mais vous faites ça, soit en regardant le miroir, même sans regarder le miroir, ça marche aussi. En fait, ça va générer dans vos neurones miroirs une réponse qui fait qu'en fait, au bout d'un moment, votre cerveau, il va associer ça à un vrai sentiment de victoire. Parce que comme vous le faites quand vous êtes contente, que c'est un geste universel de victoire, votre cerveau, il se sent obligé de se dire, mais il doit y avoir un truc. Et du coup, hop, ça met un coup de boost.
Ça marche.
Voilà, donc ça, on le recommande, par exemple, avant les entretiens d'embauche ou le moment où on va aller négocier son salaire. C'est un petit coup de boost à pas cher qui fait plaisir. L'autre truc aussi, c'est d'avoir un mantra. Ça peut être hyper intéressant, se choisir un mantra. Ça marche bien si vous y croyez. Donc prenez un truc, par exemple, si vous vous dites « je vais prendre le mantra de « je suis la boss et je suis la meilleure » mais que vous y croyez qu'à moitié », vous aurez zéro résultat. Donc à la limite, prenez un truc plus modeste si ça vous parle, mais si « je suis la boss » vous parle, allez-y. Et décider de répéter ce mantra à un moment spécifique, genre quand je garde la voiture avant de sortir pour aller au bureau ou le brossage de dents du matin. Et en fait, c'est l'occasion, pareil, d'instaurer plutôt un schéma de pensée positif au lieu de rester dans sa boucle négative de « je vais jamais y arriver, ils vont se rendre compte que je suis une fraude, ça va pas du tout ».
Oui, c'est sûr, oui. Oui, il faut bien démarrer la journée, s'affirmer face à soi-même pour pouvoir s'affirmer face aux autres.
Voilà, et donc typiquement, le mantra, ça peut servir à ça. Alors, il y a des banques de données partout, vous en trouverez plein. De la même manière, les Power Girls sur Instagram ont créé une playlist sur Spotify à leur initiative qui sont que des musiques qui leur filent la pêche avant les négociations. Donc, par exemple.
Très intéressant.
Voilà. Donc, vous pouvez la retrouver sur Spotify et Deezer. C'est la playlist Power Ta Carrière. Power avec un H, H-E-R. Et donc, typiquement, bah voilà, c'est la playlist des négociations. Vous savez que plein d'autres femmes ont négocié leur salaire en écoutant ça juste avant.
D'accord. Donc, ça marche. Il y a de l'expérience derrière.
C'est ça.
Elles ont testé.
Et donc, elles ont testé pour vous et elles disent que ça leur donne en effet le courage et l'énergie d'y aller. Et
on va aller voir. Donc, Sarah Zitouni, votre livre « Tout vouloir, tout avoir, assume la boss qui est en toi » aux éditions Kiwi. Mais il y a aussi le compte Instagram, donc « Power ta carrière », donc P-O-W-H-E-R, c'est ça ?
C'est ça.
Et puis, il y a aussi votre entreprise qui s'appelle...
Power Ta Carrière,
exactement.
Tout pareil.
Voilà, on peut trouver plein d'informations sur Internet. Grâce à vous, Sarah Zitouni, vous étiez notre invitée aujourd'hui. Merci à vous.
C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.